Splendeur de la gloire du Père, image parfaite de celui qui t'engendra. Tu t'es manifesté dans le corps de notre genre humain et tu as illuminé les ténèbres de notre intelligence par la lumière du Saint-Esprit. Instruis-nous, Seigneur, par ta parole. Éclaire nos facultés par le Saint-Esprit et sanctifie nos âmes dans ta vérité. Nous te rendons grâce, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles.
Amen.
Alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons, c'est toi que les apôtres glorifient.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Alors, ce sera la seule fois où, pendant tous ces jours, on prend un autre évangile que celui indiqué par normalement la liturgie du jour. Parce que, comme nous avons médité l'action de l'Esprit, et puis nous avons terminé sur ce fait que l'Esprit nous conduit en dernier lieu vers la gloire de Dieu. Alors j'ai pensé que nous pourrions prendre le récit de Saint Jean des noces de Cana, où se révèle la gloire du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton
Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Le vin vint à manquer et la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit : Femme, qu'importe, mon âme n'est pas encore venue. Sa mère dit alors aux servants : Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six jarres de pierre installées d'après l'usage des Juifs des purifications et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit : Remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit : Maintenant puisez, portez-en au maître d'autel. Ils en portèrent. Et quand le maître d'hôtel eut goûté où il goûtait l'eau changée en vin, il ignorait, lui, d'où cela venait. Mais les servants le savaient bien, qui avait puisé l'eau. Le maître d'hôtel appela le marié et lui dit : Tout le monde sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à maintenant. Tel fut le premier des miracles faits par Jésus. C'était à Cana de Galilée. Là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère et ses frères et ses disciples et ils n'y restèrent que quelques jours. Gloire à toi, parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, lumière éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi,
Donc cet évangile que nous venons d'entendre est rapporté par saint Jean. C'est la première fois où Jésus manifeste sa gloire. Il démontre une puissance dont Marie était convaincue, mais qui devait se manifester à une heure voulue, et qui sera en fait pleinement celle de la croix. Jésus se sent quelque peu obligé de répondre à l'invitation de sa mère. Et il décide d'anticiper son heure en démontrant la puissance qu'il possède personnellement et qui est en fait celle de sa divinité, cachée sous le vêtement de son humanité. Et c'est l'occasion pour les disciples de s'étonner, et comme ils ne cesseront de le faire, devant le mystère de cet homme, dont ils vont découvrir peu à peu une puissance qui n'est pas de ce monde. Saint Jean dit, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Et depuis cette heure, Jésus ne cessera pas de manifester la puissance qui s'était déjà manifestée dans l'ancienne alliance. Les apôtres seront émerveillés, déconcertés devant cet homme. Mais qui est-il donc, celui qui commande au vent et à la mer et qui lui obéisse? Et cette puissance s'avère être au service de l'amour. Elle est la lumière qui éclaire le chemin. Jésus dira, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est sur le Tabor que la voix du Père retentira pour authentifier la présence du Fils tel qu'il est, mais qui cache sa gloire sous son vêtement de chair. Et quand saint Pierre nous annonce au matin de Pentecôte que Jésus de Nazareth, l'homme que vous avez crucifié, c'est lui qui porte le nom au-dessus de tout nom, il nous invite à notre tour de reconnaître la gloire là où personne n'aurait pensé qu'elle ait pu être, c'est-à-dire dans la mort du crucifié. La vraie gloire, celle qui apparaît, qui transparaît dans la croix, n'est rien d'autre que l'amour du Père, qui a livré son Fils pour le salut de tous. L'amour est gloire. Et jusqu'à l'extrême de la kénose, jusque dans le visage et le corps du torturé de Jésus de Nazareth. La puissance grande créatrice deviendra kénose, anéantissement, mais sans que cette gloire disparaisse. Elle pourra pénétrer les bas-fonds de ce monde et même être présente dans le monde des ténèbres, elle restera la gloire. Et elle sera toujours libération parce qu'elle descendra jusqu'au dernier des plus pauvres de ce monde, jusque dans les démons pour les rappeler à la lumière. Et elle se fera alors rédemption de la terre, du ciel et des enfers. Et c'est dans cette gloire-là que nous avons à recevoir dans notre vie personnelle de créature née du Père pour connaître cette gloire et en participer de sa réalité merveilleuse éternelle. De quelle façon à notre tour. Pouvons-nous être illuminés par cette gloire? Eh bien, peut-être avons-nous plusieurs réponses, mais d'abord celle de la louange que nous élevons chaque jour vers le Seigneur, à chaque réveil de ce monde, dans ce monde du ciel et de la terre, dans cet univers prodigieux que saint François chante dans son Cantique des créatures comme nous l'avons fait. Ce faisant, nous reconnaissons ainsi la seigneurie de Jésus sur son œuvre d'aigle gigantesque de la création image de sa propre gloire. Car la louange est un don qui nous unit au royaume. C'est le don des enfants de Dieu, de ceux qui sont renés dans le Christ. Et c'est ensuite vers le Fils qui se fait obéissant jusqu'à la mort que nous pouvons diriger notre action de grâce et alors participer à la gloire du crucifié ressuscité. La gloire n'est plus pour nous un spectacle extérieur, mais ce que produit en chaque cœur qui reçoit le Seigneur Jésus de Nazareth, à savoir d'abord l'illumination de tous nos sens, créant des sens spirituels, la perception par la prière de l'amour du Père miséricordieux qui nous aime, la conscience intime qui s'éveille et grandit au fur et à mesure du temps d'être né de Dieu, la conscience d'être une créature appelée à vivre éternellement, la conscience de vivre une vie filiale d'enfant de Dieu. La gloire de Dieu, alors, eh bien, c'est l'homme vivant, comme disait saint Irénée. L'homme rené dans le Christ, eucharistié, divinisé dans la puissance du Saint-Esprit, c'est la véritable noce, celle du Fils avec l'humanité, qu'il revêt de sa splendeur de Christ ressuscité. L'époux a épousé l'humanité, et l'épouse maintenant est parée de sa gloire divine. La gloire, c'est ce qui transforme nos pauvretés de cendrillon en fils de gloire, en fille de roi sous les ordres d'Ophire, comme le chante le psaume 44. De nos corps de chair encore ressuscités dans le Christ. La gloire en nous est comme un pèlerinage qui nous mène de gloire en gloire sur le chemin de nos pauvretés, de nos indigences, vers la splendeur du roi de gloire, comme le décrit sainte Claire à son amie Agnès. Heureuse celle qui aime de tout son cœur, celui dont la beauté fait l'admiration des anges pour l'éternité, celui dont l'amour rend plus heureux et la contemplation plus fort, celui dont le parfum fait revivre les morts et dont la vision comble de bonheur les habitants de la Jérusalem céleste, puisqu'il est la splendeur de la gloire éternelle, l'éclat de la lumière sans fin, le miroir sans tache. Eh bien, chacun de nous pourrait dire quelque chose de la gloire qui lui est intime, parce qu'elle est venue faire sa demeure en chacun de nous, avec le Christ, qui l'introduit en venant habiter dans notre cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. Selon la parole de Jean 14, 23, « Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons en lui pour faire notre demeure. Dans un cœur d'apôtre, elle fait marcher le missionnaire. Elle fait voir l'invisible pour l'annoncer. Elle est la lumière qui dirige les pas vers le royaume. Dans l'enfant qui dort dans notre être profond, elle se manifeste pour révéler notre origine divine, notre innocence, que le péché n'a pas effacée, et qui est l'œuvre spirituelle que nous avons à accomplir. Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais elle a aussi la gloire dans l'étreinte amoureuse du bien-aimé et de sa bien-aimée, comme un chant d'amour qui doit s'élever, grandir jusqu'au cantique des cantiques par le sacrement du mariage. Elle est l'acceptation de la décadence de la vieillesse et de la maladie. Elle demande notre consentement à vivre les dernières épreuves de cette vie en union avec le Christ en croix. Elle assure que le sacrifice de nos vies est utile, mystérieusement, pour la vie et le salut du monde. Elle sera présente à la dernière heure, quand la corruption entraînera notre corps dans la mort, pour nous rappeler que nous sommes poussière, que nous devons retourner à la poussière. Et comme le Christ, criant son dernier grand cri, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous savons, nous aussi, que ce monde va disparaître, mais que ce cri du Fils et de l'homme, du Fils éternel, a ouvert les cieux. Nous savons que le cœur du Père, grâce à lui, s'est ouvert pour nous, que tout va recommencer quand tout disparaîtra. Parce que l'amour, dit le cantique des cantiques, est plus puissant que la mort, et parce que le Fils a vaincu la mort. La gloire n'est plus un discours, mais s'il faut en dire quelques mots humains, elle est vie, elle est la vie de notre vie, elle est la propre magnificence de notre vie, elle est le chant du Magnificat de Marie, la toute pure, la première à la reconnaître et la chanter, pour que ses enfants qu'elle éduque puissent la chanter avec elle dans l'éternité. La gloire s'est faite chair, pour que notre corps, notre chair mortelle, renaisse à l'heure de la résurrection de la chair, en vêtements de noces éternelles. Le grand paradoxe de la gloire est donc qu'elle couve en nous, dans notre existence, et que rien ne permet en ce moment de la révéler, sinon d'avoir une intuition par la foi. Il est vrai que le Seigneur accorde à certains saints de la rendre visible en eux, tel sa Séraphin de Sarov. Mais d'ordinaire, la gloire est cachée en chacun de nous. Et nous devons la discerner par l'action du Saint-Esprit, croire fermement que nous avons été créés pour en connaître toute la splendeur et sa définitive permanence dans le royaume. Nous devons la porter dans la foi pour en témoigner, parce que nous sommes des enfants du Père, appelés à partager l'héritage du Fils de la gloire.